Je vais aborder la relation AESH-enseignant au prisme de la sociologie, c'est-à-dire que je vais la considérer selon les propriétés sociales des acteurs que j'ai pu rencontrer ou qu'on a pu enquêter, selon leur disposition sociale à se représenter le monde et à exprimer des orientations morales sur ce monde, et notamment le monde professionnel dans lequel ils évoluent, mais aussi selon l'actualisation de leur disposition sociale en fonction des contextes d'organisation de leur travail et des modalités dans lesquelles ils entrent en action. Donc vraiment rentrer par le prisme de la sociologie, c'est parler des propriétés sociales concrètes des acteurs. Plus précisément, je vais mobiliser une sociologie du travail et des professions qui emprunte à l'école de Chicago. Je suis désolée de parler en quelques secondes de ce prisme analytique-là. Grosso modo, j'emprunte au sociologue des professions de l'école de Chicago cinq grandes idées. Premièrement, le travail est un drame social, c'est-à-dire c'est une scène de théâtre qui se déroule dans plusieurs arènes, des arènes que les sociologues appellent formelles, arènes de la politique, arènes du syndicat, arènes de la réglementation, arènes juridiques, et des arènes plus informelles qui sont le terrain de travail, le workplace. Deuxième assertion, toute profession se légitime par ce qu'on appelle une licence à l'entrée dans la profession, c'est-à-dire une qualification, une sorte de barrière à l'entrée qui valide une compétence, et aussi se légitime par un mandat social, c'est-à-dire qu'une profession repose non seulement sur une qualification régulière, officielle, mais aussi par des attentes sociales, notamment de la part des destinataires de son service. Troisième emprunt, toute activité professionnelle a sa part de sale boulot, dirty work, écrit Hughes, c'est-à-dire que le sale boulot n'est pas forcément un boulot sale, mais c'est un boulot, c'est la part de son travail que l'on délègue à d'autres parce qu'on estime qu'elle n'est pas au cœur de son mandat et qu'elle n'est pas suffisamment attestée par sa licence. Quatrième caractéristique, quatrième emprunt, les sociologues de l'école de Chicago ont une perspective qu'on dit écologique sur les professions, c'est-à-dire qu'ils les envisagent non pas les unes à côté des autres, mais les unes en interaction avec les autres dans un milieu professionnel généralement organisé. Et ces interactions-là sont généralement aussi, en tout cas dans cette perspective-là, des luttes de juridiction, c'est-à-dire que les professions, au regard les unes des autres, vont tenter de se qualifier davantage, obtenir davantage de mandats sociaux, et ça se fait toujours à la limite des frontières de la profession voisine. On a donc un paradigme de la concurrence, voire du conflit, en tout cas de la tension entre les juridictions professionnelles voisines. Et puis dernière assertion, les activités de service et l'éducation, comme la médecine, par exemple, le soin, sont considérés comme des activités de service. Les activités de service intègrent ce que les sociologues de Chicago appellent les clients, c'est-à-dire les destinataires, en l'occurrence les élèves et les familles, dans ces luttes juridictionnelles. C'est-à-dire que les clients sont une ressource et parfois un obstacle dans l'obtention d'une arène un peu plus grande sur la juridiction de la profession d'à côté. Alors, trois questions pour mon intervention. Est-ce que l'évolution en cours du statut des AESH, et notamment du passage des AVS aux AESH, fait passer les accompagnantes du quasi-métier d'AVS à la profession d'AESH? Autrement dit, dans quelle mesure est-ce qu'on a affaire à une professionnalisation tout à fait inachevée, en l'occurrence? Deuxième question, est-ce que la visibilisation qui accompagne cette professionnalisation en cours s'accompagne aussi d'une relation de complémentarité croissante entre AESH et enseignants? Et enfin, troisième question, est-ce que l'établissement, c'est-à-dire l'organisation du travail, n'est pas une variable contextuelle majeure, essentielle, pour interpréter la qualité sociale de cette relation entre AESH et enseignants? Bref, est-ce qu'il ne faut pas contextualiser via une sociologie qui s'intéresse non seulement aux professions, mais aux professions situées dans une organisation et dans tel ou tel type d'établissement scolaire en l'occurrence, pour traduire quelle est la nature et quelle est la qualité sociale de cette relation. D'abord, je vais essayer de balayer un petit peu ce groupe social dans ce qu'on appelle l'arène officielle, avec l'idée de montrer quelles évolutions ont concerné ce groupe. La loi du 26 juillet 2019 pour une école de la confiance promeut en fait le passage du contrat aidé au contrat de droit public. Aujourd'hui, les AESH sont très majoritairement en CDD de 3 ans dès le premier recrutement, renouvelable une fois, avec une possibilité de CDI dès après ce premier CDD, mais sans titularisation puisqu'il n'y a pas de concours dans l'éducation nationale qui leur soit dédié. Du coup, on a une augmentation des contractuels dans l'éducation nationale et notamment dans le secondaire, qui n'est pas tendue à l'augmentation des enseignants contractuels qu'à celle des acteurs non enseignants de l'éducation nationale et plus précisément, en particulier des AESH. Deuxième indicateur de l'évolution du statut, la gestion des ressources humaines associées avec la montée en charge du nombre d'AESH. On constate des cellules AESH avec des divisions du personnel affectées à la paye et aux carrières des AESH, au recrutement, à l'affectation et à la formation des AESH. On a cinq, sur l'Académie d'Aix-Marseille, on a par exemple cinq personnels qui se consacrent au rectorat, aux AESH. Bref, un certain nombre d'indicateurs qui montrent que le statut est en progrès, c'est-à-dire que sur l'arène juridique, et politique d'ailleurs, on a effectivement une amélioration des conditions statutaires des AESH. Sur l'arène des ressources humaines, circulaire du 5 juin 2019, on a effectivement un temps complet moins souvent incomplet, jusqu'à 32 heures hebdomadaires dans un même EPLE pour des AESH co, mais en moyenne, le temps de travail reste de 18 heures hebdomadaires. On a aussi une revalorisation récente de la grille de rémunération. Et puis donc, on a des conditions de travail qui, elles, sont impactées, alors sans doute par le bas, par l'installation des pôles d'inclusion, des pôles inclusifs localisés, parce que ces pôles-là ont une, promeuvent une conception très gestionnaire, on dira, de la mutualisation des AESH et ont tendance à augmenter la dispersion géographique de leur affectation. Toujours dans l'arène officielle, et ce sera ma dernière diapo, je dirais, de descriptif sur cette reconnaissance en cours, l'accompagnement syndical, on a une prise en charge syndicale plus affirmée depuis 5 ans à peu près. On avait deux collectifs, l'UNEAVS et l'UNAIS, qui s'étaient mis en place à la fin des années 2000. Progressivement, le SNUIPP, le SGEN-CFDT et la CGT-UNSA prennent en charge les AESH. Il faut quand même constater que, comme dans d'autres secteurs fortement précarisés, ce sont surtout les groupes mobilisés d'AESH qui appellent les syndicats et non les syndicats qui construisent les mobilisations. Avec des collectifs professionnels militants, AVS, y en a marre jusque dans les années 2009. Aujourd'hui, coordination des collectifs AESH de France, le blog En Action, et des collectifs professionnels qui sont relayés par des associations d'usagers proactives comme la FNACEP, par exemple. On rentre, si vous le voulez bien, dans ce qu'on appelle la morphologie du groupe socio-professionnel. Là aussi, on est en pleine évolution, avec un groupe socio-professionnel récent, beaucoup moins homogène qu'il ne l'a été. Tout d'abord, lorsqu'on regarde l'enquête emploi de la DARES, on s'aperçoit que on a un effet de génération qui est en train de segmenter le groupe en cours. On reste sur un personnel très féminin, beaucoup plus que chez les AED, qui sont le groupe auquel les AESH sont, en termes statistiques, duquel les AESH sont souvent voisines en termes statistiques. L'âge moyen aujourd'hui des AESH est de 45 ans, quand les AED ont un âge moyen d'un peu plus de 29 ans. Le grand marqueur de l'évolution, c'est le recrutement de moins en moins populaire. Le père des AESH est beaucoup plus souvent aujourd'hui issu d'une profession, est issu, oui, d'une profession intermédiaire, beaucoup plus souvent qu'ouvrier employé, surtout pour les jeunes générations d'AESH, ce qui les éloigne des ATSEM et va les rapprocher des AED. Depuis le début, depuis les années 2006, on a une origine immigrée des AESH qui est beaucoup moins présente que chez les ATSEM. Et surtout, les AESH d'aujourd'hui sont beaucoup plus qualifiés que les AESH d'hier. Le nombre d'AESH bachelières dans le groupe actuel est passé de 15% en 2005 à 58% en 2021. Ça n'est pas si étonnant lorsqu'on fait un petit calcul, c'est que avec 44-45 ans d'âge moyen, les AESH en 2005 ont passé leur bac vers 1979. Les AESH de 2021 ont passé leur bac vers les années 1995, pardon, ce qui signifie après la mise en place du bac professionnel. Or, on sait que le bac professionnel est la filière qui a ouvert très largement le niveau 4, puis le niveau supérieur, au groupe plus populaire d'élèves. L'accès au métier ne requiert cependant pas de diplôme plus élevé qu'un CAP d'aide à la personne. Et à ce titre-là, deux tiers des AESH sont pourtant aujourd'hui en possession d'un diplôme supérieur à celui qui est requis. Ce ne sont pas tant les anciennes AVS qui ont obtenu de nouveaux diplômes que de nouvelles salariées, mieux qualifiées, qui sont entrées dans le métier puisque le taux d'AESH sans qualification baisse au fur et à mesure que l'on descend dans les catégories d'âge. Et il existe donc une corrélation entre la professionnalisation du quasi-métier et le niveau de diplôme des salariés. Passons maintenant à la question des identités professionnelles. L'identité professionnelle qu'on a essayé d'aborder avec notre groupe d'enquêteurs, l'identité professionnelle, c'est à la fois la définition du cœur de métier et la figure éducative à laquelle on se rattache en tant que groupe, en tant que membre d'un groupe socio-professionnel particulier, en l'occurrence AESH. Cette définition du cœur de métier, cette figure éducative, ne sont pas les mêmes en fonction du contexte. En école primaire, on peut estimer que deux groupes d'identité, deux types d'identité professionnelle sont en contraste, celle que j'ai appelée les AESH maternelles et celle que j'ai appelée les AESH animatrices. Maternelles, il s'agit d'aborder le cœur de métier sous la forme, en centrant sur l'apprentissage des gestes de la vie quotidienne, en soulignant l'importance du travail affectif, avec le projet de développer l'autonomie de l'enfant et une certaine indifférenciation entre les rôles domestiques de la maman et les rôles professionnels. Le modèle est celui de la mère de famille. Les pratiques en question sont effectuées en mettant en avant le registre de la patience et de l'amour. Et ces registres-là ne sont jamais présentés comme professionnels, justement, avec une forme d'auto-dévalorisation de l'expertise des gestes qui peut être associée à ce travail éducatif. Et avec une forte homologie dans les discours entre le couple hétérogame maman-papa et le couple AESH-PE. D'un côté le soin, de l'autre l'autorité. D'un côté l'éducatif, de l'autre la pédagogie. Dans ce groupe d'AESH, l'inactivité est mal vue au regard d'ailleurs de la morale professionnelle des milieux populaires, et être AESH permet un complément de salaire au revenu salarial du conjoint, de catégorie ouvrier ou employé, en même temps que s'y développe, en tout cas dans les discours et dans l'observation de l'activité, c'est le cas, en même temps que se développe régulièrement une culture anti-école, c'est-à-dire anti-scolastique, en fait, notamment à la maternelle. Et là, ce qui est intéressant, c'est en fait le rapport au corps des enfants. On n'a pas le même discours entre les enseignants, et notamment les enseignantes qu'on a appelées des expertes pédagogiques, et les AESH. Le rapport au corps, le fait d'exercer une autorité, voire une autorité physique, qui est assez répréhensible dans la morale professionnelle des jeunes enseignantes aujourd'hui, l'est beaucoup moins dans la morale professionnelle des AESH d'un certain âge et correspondant à ce modèle maternel. Deuxième groupe, les AESH qu'on a pu dire animatrices, qui mettent l'accent sur l'auxiliariat pédagogique. Elles ont souvent occupé des postes dans l'animation auparavant et elles revendiquent une place dans l'ingénierie des apprentissages, et notamment en maternelle, dans les TAP, dans les ateliers d'éveil. Et elles se distancient d'une conception utilitaire du métier d'AESH en valorisant l'expérience comme base d'une formation diplômante. Chez elles, le métier d'AESH est souvent une réorientation après une scolarité subie vers des formations techniques de filière tertiaire. On y trouve notamment des AESH qui ont un bac sanitaire et social et dans lesquels elles ne se sentaient pas à leur place, nous disent-elles. Le souhait ici, c'est de changer de métier un jour, mais dans des sphères professionnelles proches, comme pour devenir par exemple éducatrice, qui reconnaîtront davantage leurs compétences que l'enseignement, notamment l'enseignement en primaire. AESH médiatrice, cette fois, on a affaire au milieu professionnel privilégié dans les affectations demandées, qui est le collège. La médiation, qui est le cœur de métier revendiqué par ce groupe-là, c'est une médiation par rapport à la pluralité des interventions adultes au collège auxquelles sont confrontés les jeunes élèves et de manière plus difficile encore, les élèves en situation de handicap, mais aussi une médiation par rapport au monde des pairs, PAIRS, jugé potentiellement stigmatisant pour ces élèves, voire cruel. Et l'enjeu du harcèlement scolaire ici est vraiment central. L'aide à l'école que ces AESH médiatrices revendiquent, c'est une aide à l'école à la fois comme lieu d'apprentissage, mais très parallèlement et parfois de manière plus essentielle, comme lieu de socialisation. Le collège est un lieu où il faut protéger, voire donner des codes défensifs de comportement aux élèves accompagnés en situation de handicap. Ces AESH-là sont plus souvent en groupe dans les collèges que les AESH en école primaire. Et plus régulièrement, ce sont des anciennes élèves qui ont fait des carrières scolaires plutôt courtes, mais pas malheureuses, et qui acceptent une part du travail affectif que les enseignants n'assurent plus au collège, mais qui vont requalifier rhétoriquement ce travail affectif dans les termes, par exemple, du développement personnel de l'élève en situation de handicap, de son bien-être, et dans des termes qui n'hésitent pas à critiquer la négligence professorale et la cécité de l'institution face à la charge mentale pour les familles. Et ce sont des AESH médiatrices où la figure de la famille ou des parents, et notamment de la mère de l'élève en situation de handicap, sont prégnantes. Qui n'hésite pas à critiquer la paperasserie associée à l'inclusion scolaire, qui n'hésite pas à critiquer la centration du collège sur la forme scolaire, la difficulté à raisonner en termes de compétences, par exemple, et qui vont requalifier, qui vont mobiliser plutôt les parents et notamment les mères pour requalifier leur activité éducative de médiatrice. Ce sont aussi des AESH qui vont revendiquer beaucoup plus frontalement l'entrée dans la communauté éducative, qui est une préconisation en fait du tournant inclusif de la loi pour une école de la confiance, et notamment qui vont demander à être présentes dans les ESS de manière parfois assez militante. Et puis, il y a le cas des médiatrices co, des AESH médiatrices co, enfin, on les a appelées comme telles, qui, elles, font de leur cœur de métier une aide à se maintenir dans les apprentissages et à surmonter les évaluations, donc qui sont beaucoup plus proches des attentes enseignantes que les médiatrices hors dispositif ILIS. Ces médiatrices co prônent une continuité entre l'école et le collège et souhaitent faciliter la transmission des savoirs au cœur de leur juridiction professionnelle. Elles défendent leur capacité à faire un travail d'abstraction et même à penser sur un registre métacognitif le rapport au travail, bref, à apprendre aux élèves accompagnés, à apprendre à apprendre aux élèves accompagnés. Elles rejettent davantage le travail d'aide à la socialisation et elles se font les défenseurs des compétences et de l'évaluation par compétences, pardon, et des innovations pédagogiques. Le travail d'AESH est vécu sous l'angle davantage de l'épanouissement professionnel et du sentiment d'avoir trouvé sa place. ce sont plus souvent des anciennes élèves qui ont fait des carrières scolaires assez longues, mais dont l'insertion professionnelle a été décevante. On a un certain nombre de cas qui ont fait des études d'orthophonie ou de psychologie, voire de pédopsychologie par exemple. Ce sont aussi, et il faut bien en être conscient, des médiatrices co dont le temps de travail est beaucoup plus proche d'un plein temps en dispositif ULIS comme en classe de référence que les autres segments d'AESH. Et ça n'est pas sans lien avec le sentiment d'épanouissement, le sentiment d'avoir trouvé sa place. On change généralement, on est généralement affecté de façon durable au même établissement dans un dispositif ULIS qui s'installe, voire qui se développe. Les travaux de Suzy Bossard, qui a effectué une belle thèse sur les AVS soutenus en 2015, mettent en évidence une relation de subordination déniée. Avec une division du travail pédagogique inscrite dans une logique de délégation du sale boulot de la part de l'enseignant vers l'AESH, des compétences techniques qui sont souvent invisibilisées et notamment rendues invisibles par l'appel à des compétences jugées moins expertes, de type relationnel, de type éducatif, de type affectif. Une concurrence des morales de classe entre des AVS plus populaires qui mettent en avant l'importance du pratique, l'importance des productions belles par les enfants, notamment en maternelle et en élémentaire, alors que les enseignantes mettent, elles, en avant des valeurs beaucoup plus pédagogiques, axé sur les apprentissages, quel que soit le produit fini en question, et un rapport social très asymétrique, très hiérarchisé, mais nié, précisément parce que nous sommes dans un univers où la question de la hiérarchie est quelque chose de compliqué chez les enseignantes, notamment les enseignantes de primaire, compliqué à reconnaître. Diriger est un sale boulot enseignant, c'est un sale boulot qu'on ne peut pas déléguer lorsqu'on a une AESH en face de soi. Et ce sale boulot-là, s'inscrit dans un déni de la relation hiérarchique. Or, une relation de subordination, quand on lit simplement le droit du travail, c'est une relation dans laquelle l'un des salariés est responsable et met l'autre sous son contrôle. En école maternelle, cette relation de subordination, elle est effective, on la constate effectivement. Les enseignantes délèguent notamment le travail disciplinaire à l'AESH, pardon, qui est plus souvent une AESH de catégorie, si je puis dire, de profil maternel. Alors, au collège, autre catégorie, si je puis dire, autre sous-groupe d'AESH, médiatrices d'un côté, mais qui peuvent être aussi maternelles de l'autre. Au collège, c'est l'autonomie qui est attendue, avec l'idée, l'autonomie de l'élève, Serge, certes, mais aussi l'autonomie de l'AESH elle-même, avec l'idée que le groupe considéré, le groupe socio-professionnel de référence, doit obtenir une capacité à décider de la manière de conduire des missions inhérentes à son activité et doit aussi avoir la possibilité de résister à certaines injonctions hiérarchiques ordinaires qui lui paraissent contrevenir au bien-être de l'élève en situation de handicap accompagné. Il s'agit ici de marges que les AESH médiatrices notamment vont grappiller à l'organisation du travail. Marge sur l'emploi du temps qu'elles vont négocier par exemple avec le professeur principal, marge sur des initiatives semi-clandestines qu'elles vont prendre dans les méthodes d'accompagnement des élèves, ou encore marge d'autonomie dans les situations de gestion de crise. Il s'agit donc d'une autonomie non seulement de l'élève qui est recherché, mais d'une autonomie de sa propre activité, une autonomie qui reste souvent d'ailleurs clandestine, mais qui va permettre d'équilibrer la relation de subordination. Le cas des AESH co au collège et en lycée professionnel avec un dispositif ULIS vers le binôme, alors là, effectivement, on a toujours cette particularité de l'AESH co qui est sans doute la plus professionnalisée aujourd'hui, avec plusieurs points qu'elle partage avec le coordonnateur ou coordonnatrice Ulysse. Tout d'abord, une polyvalence qui est attendue face à ce maelstrom de tâches à la fois pédagogiques, organisationnelles et éducatives, qui est vraiment le cœur de métier des enseignants spécialisés. Hein. Encore plus sans doute en collège, on noue ensemble le pédagogique, l'organisation et l'éducatif dans un milieu organisationnellement beaucoup plus complexe pour les élèves comme pour les acteurs professionnels. On partage aussi avec le coordonnateur Ulysse une domination symbolique à l'égard des enseignants experts disciplinaires. Et cette domination symbolique, elle est tout à fait visible dans la présence ou pas du co-enseignement, c'est la co-intervention en classe de référence qui se fait systématiquement avec l'AESH co lorsqu'il se fait avec le coordonnateur Ulysse. Bref, un coordonnateur Ulysse qui va intervenir dans certaines séquences de cours de maths interviendra toujours avec son AESH co, mais jamais l'AESH co ne va intervenir sans lui. Donc, une domination symbolique parallèle, si je puis dire, hein, vécue à deux entre l'AESH co et son coordonnateur, sa coordinatrice. Beaucoup moins de conflits dans ce couple-là, dans ce binôme-là, sur les pédagogies invisibles, c'est-à-dire sur la manière implicite de produire, de faire entrer dans les apprentissages les élèves en situation de handicap, alors que ces pédagogies invisibles sont beaucoup plus conflictuelles, notamment à l'école primaire, entre AESH et enseignantes. Un partenariat implicite face aux enseignants pour accéder à la communauté éducative, et notamment les AESH co sont soutenus souvent par leurs coordonnateurs, leurs coordonnatrices pour assister aux ESS des élèves qu'elles accompagnent. Et puis, une vision moins caricaturale de la gestion du personnel du côté des coordonnateurs Ulysse, qui ont en fait beaucoup plus l'habitude de travailler de manière à la fois asymétrique et coordonnée depuis leur rôle soit dans les ESMS lorsqu'ils étaient affectés à un établissement sanitaire et médico-social, soit même en école, et un rapport social moins asymétrique entre les deux, qui est sans doute dû au fait que les AESH co sont souvent plus qualifiés que leurs co-religionnaires notamment à l'école, et beaucoup plus proches à ce niveau en termes de niveau de qualification du niveau de qualification des coordonnateurs, coordinatrices. Le binôme AESH enseignant, pour reprendre les termes de la sociologie de Chicago, est un arrangement juridictionnel qui va jouer sur les frontières d'activité connexes. L'éducatif, le relationnel, le pédagogique, qui, dans le cadre de cette grande politique d'inclusion dans l'école ordinaire des élèves en situation de handicap, est devenu justement le quotidien de l'organisation scolaire. Mais cet arrangement juridictionnel n'empêche pas des prestiges symboliques différenciés suivant les tâches, avec évidemment en haut de la pyramide de ce prestige-là, le pédagogique, le didactique, et en bas de cette pyramide, le relationnel et l'affectif. Donc, déconstruire cet arrangement juridictionnel, qu'est le binôme AESH enseignant, permet en fait d'apporter des éléments de réflexion sur les rapports de pouvoir dans cette relation-là, mais plus globalement dans les relations de service de soins à l'hôpital, par exemple entre aide-soignante et infirmière, dans les relations de service éducatives qui sont notre objet. Et déconstruire ce binôme permet de montrer que ces relations de pouvoir tissent le quotidien, ou en tout cas ces relations d'autorité tissent le quotidien entre les différentes parties. Je trouve aussi que ce binôme est au cœur de temporalités diverses en fonction des groupes d'AESH considérés. On a des temporalités différentes suivant l'âge de l'AESH, suivant la génération de l'AESH, suivant la conjoncture, le contexte de l'activité. Et l'histoire de ce binôme, dans les arènes formelles, évidemment, promeut un horizon, celui de la complémentarité. Mais cet horizon, c'est en fait un processus parmi d'autres en même temps que la requalification de l'activité par les politiques publiques pardon, est un levier essentiel du changement. Donc, pas d'horizon d'arrangement symétrique sans considération très pratique sur la reconnaissance via une meilleure qualification et une meilleure formation de ces AESH.